VOA Afrique, les infos à Washington.
John Lyndon pour vous présenter cette édition. Merci d'être avec nous. Des agents russes ont essayé d'orienter la campagne présidentielle de Donald Trump l'an dernier en tentant d'influencer ses proches collaborateurs, dont l'ancien conseiller en politique étrangère Carter Page. C'est ce qu'affirme ce samedi CNN. Selon la chaîne d'information, ces pratiques ont été évoquées lors d'une réunion du FBI l'été dernier, qui a par ailleurs lancé une enquête pour tenter de déterminer s'il y a eu coordination entre des proches de l'actuel président américain et des responsables russes pendant la campagne de 2016. Il n'est pas clair si Carter Page, qui a été surveillé l'an dernier par le FBI, était au courant ou non des tentatives de Moscou de l'utiliser. Ont toutefois confié des responsables américains à CNN sous couvert d'anonymat. La 25e édition du Festival de jazz de Saint-Louis, événement moteur de cette ville paisible du nord du Sénégal, s'ouvre lundi sous une sécurité accrue avec parmi les têtes d'affiche la présence du bassiste américain Marcus Miller et Lockie Peterson. Durant le festival, qui se tiendra jusqu'au 1er mai à l'initiative de l'association Saint-Louis Jazz, plusieurs musiciens de jazz et de diverses influences se produiront dans la ville. La manifestation organisée pour la première fois en 1991 est devenue annuelle à partir de sa deuxième édition en 1993.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le corps de l'opposant historique congolais décédé le 1er février dernier sera rapatrié à Kinshasa le 12 mai et enterré au siège de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, a annoncé ce samedi le secrétaire général du parti, Jean-Marc Kaboun, lors d'une conférence de presse. Une organisation des droits de l'homme appelle le gouvernement à rapatrier des centaines de filles et femmes victimes du trafic humain au Moyen-Orient. Plus de 800 femmes ont été amenées à Oman et en Arabie Saoudite où, selon un rapport de l'Observatoire national contre le crime transnational, les promesses alléchantes d'emplois bien rémunérés tournent souvent à l'esclavage moderne. Les explications de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkuruziza.
L'Observatoire national de lutte contre la criminalité transnationale a pointé du doigt dans ce rapport 2016, sorti en mars dernier, sur les traitements inhumains et ou dégradants faits à l'endroit de plus de 800 filles et femmes burundaises dans les pays du Golfe, plus précisément en Arabie Saoudite et à Oman. Ces femmes pensaient pouvoir vivre décemment avec des salaires mirobolants, mais ont en revanche subi plusieurs expériences douloureuses. Cette fille est revenue de Man en février dernier et se souvient qu'elle a appris cette opportunité de travail, pas de connaissances, mais a vite déchanté.
Une amie m'a parlé de cette chance inouïe d'aller travailler au Koweït. Je devais normalement préparer des repas pour les universitaires. Mais arrivé sur place, je faisais le travail quotidien d'une bonne de maison. Je devais toucher 250 dollars, mais sur place, je n'ai rien reçu. Je travaillais depuis 8 heures du matin jusque très tard la nuit. Je gardais surtout les enfants.
Le président de l'Observatoire national de lutte contre la criminalité transnationale, Prime Mbaro Bukeye, indique que plus de 30 femmes victimes, certaines de sévices sexuels, sont déjà revenues des pays du Golfe.
Nous avons pu rapatrier, en collaboration avec d'autres institutions et voies dans ce domaine, 31 victimes qui sont en train actuellement de subir une assistance psychosociale.
Les autorités burundaises confirment que des femmes burundaises ont été trafiquées dans les pays du Golfe. Les ministres des Relations extérieures, la Cour opération Alain Emmanuel a répondu aux questions orales au Sénat burundais.
Il est clair que la plupart de ces jeunes dames partent pour travailler dans des ménages, mais qui, dans certains cas, étaient amenées à être asservies dans d'autres fins moins morales que je n'aimerais pas citer.
Alain Emmanuel reconnaît que rapatrier 30 à plusieurs dizaines de personnes nécessite souvent des moyens qui ne sont pas directement disponibles.
Le problème se pose, c'est un problème de moyens. Je ne crois pas que notre ambassade puissent être assez riches pour avoir des moyens de donner des billets d'avion. Si 30-40 personnes se présentent pour demander un billet d'avion coûtant en moyenne 1000 dollars, faites le compte.
L'Observatoire national de lutte contre la criminalité transnationale estime que les chiffres de ces filles et femmes pourraient être plus grands pour les années 2015 et 2017. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Fin de ce bulletin d'information. Merci d'avoir suivi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission incontournable, interactive de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Une émission que vous aurez bien raison d'écouter religieusement aujourd'hui, dirons-nous, car nous allons tenter de savoir quelle place occupent les femmes au sein des ministères et autres postes à responsabilité des principales confessions religieuses. Avec moi dans le studio et en direct sur Facebook, Elisabeth Ebeka, pasteur d'une église évangélique dans le Maryland, qui va nous éclairer notamment sur son parcours et les femmes pasteurs aux États-Unis. Merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour Nathalie.
Alors vous êtes également vice-présidente de la communauté congolaise à Washington.
Oui, c'est ça. Ouais.
Alors dites-nous un petit peu votre parcours. Moi je serais vraiment très curieuse de savoir comment on arrive, un petit peu sur votre cursus, hein, votre parcours, comment on en arrive là où vous êtes arrivée. Qu'est-ce qui fait qu'on décide finalement de devenir une femme pasteur?
Intéressant.
Oui.
Bon, le parcours est un peu compliqué. Mais bon, je vais essayer d'être le moins religieux, si tu veux, possible. Mm-hmm. Essayer de ne pas trop utiliser de termes trop bibliques pour que tout le monde puisse me comprendre. En général, quand on commence à... On rencontre le Seigneur, c'est ce que nous disons. On entend parler de Jésus-Christ et puis on commence à lire sa Bible et à étudier la Bible et on a la communauté à l'église et on commence à grandir spirituellement. Juste de la même manière qu'on grandit naturellement, on grandit aussi spirituellement. Et au fur et à mesure qu'on grandit, Dieu conduit nos vies et Dieu nous dirige... un pas vers l'autre. Parce que dans la Bible, on nous enseigne que Dieu est le maître des temps, il est le maître de toutes les circonstances. Donc nous croyons, en tant que chrétiens, que lorsque nous marchons, Dieu nous conduit en fait. Comme le fait que je sois ici aujourd'hui, pour moi, c'est Dieu qui m'a emmené ici aujourd'hui. Et c'est de la même manière qu'on se retrouve pasteur ou qu'on se retrouve dirigeant d'un ministère.
Ouais, mais vous l'avez décidé comment? Moi, je veux une réponse plus concrète. Moins religieuse, comme vous l'avez dit.
Voilà, moi, ouais. Décider, bon, je n'ai pas vraiment décidé, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu, en marchant et en vivant en tant que chrétienne, on veut plaire à Dieu, on veut faire les choses qui sont les choses qui vont honorer notre Dieu, qui font que... Tu vois, juste comme les enfants, quand tu grandis, tu ne veux pas que tes parents fassent honte à tes parents.
Mais est-ce que vous avez pensé, quand vous avez voulu le faire, le devenir, que vous ne seriez peut-être pas capable de le faire? Est-ce que vous avez eu peur un petit peu en vous disant, c'est ce que je veux faire, mais est-ce que je vais être à la hauteur?
Absolument, ouais. Absolument. Et je crois que ça, c'est un signe qui ne manque pas. La plupart des gens qui servent Dieu, même les hommes, les femmes, tout le monde, tu arrives à ce point-là où tu te demandes, est-ce que je suis à la hauteur? Et en fait, nous ne sommes jamais à la hauteur.
Il est toujours présent, ce doute-là?
Toujours.
Ouais.
Il est toujours présent à chaque fois qu'on doit parler, à chaque fois qu'on doit parler de la part de Dieu, il est présent. Mm-hmm. Et en fait, c'est exprès.
Oui, c'est la part d'humilité de la chose.
Exactement,
ouais.
Pour savoir que nous sommes humains, nous ne sommes pas Dieu. Dieu lui-même décide et alors on est toujours dépendant de lui à 100%. C'est dans la presse.
Les petites infos, une femme à la tête de l'église luthérienne de Suède depuis 2013. L'évêque de Lund, André Jacquelin, avait été élu archevêque à 55,9% des suffrages après la retraite de son prédécesseur, ordonné prêtre en 1980. André Jacquelin est un doctorat en théologie à l'université de Lund en 1999. Elle a notamment dirigé aux États-Unis le centre Zygon pour la religion et la science. En 2006, elle est devenue évêque de Lund, succédant à Christina Odenberg, la première femme évêque de l'église de Suède. Elle est mariée à un prêtre et l'église de Suède ordonne des femmes prêtres depuis 1960. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et il y a l'église anglicane d'Angleterre qui a nommé en 2014 sa première femme évêque, hein, Libby Lane. La nomination a eu lieu 20 ans après les premières ordinations de femmes prêtres en Angleterre, où elle représente environ un tiers du clergé. Son vrai nom, elle s'appelle comme vous, Elizabeth Jane Holden Lane, et selon l'AFP, elle est également mariée à un prêtre. Hein. Alors là, on se trouve dans des cas où la femme, finalement, atteint le niveau supérieur aussi au sein de l'Église. Et l'évêque, il y a l'évêque de Gloucester, Rachel Trewick, donc c'en est une autre qui a été nommée en 2015, qui, elle, est devenue la première femme à siéger aux côtés des 26 évêques de la Chambre des Lords. Ce qui n'est pas rien, la couronne britannique ayant approuvé une loi permettant aux femmes évêques d'intégrer prioritairement la chambre haute du Parlement quand des sièges du banc des évêques se libèrent. Alors, Rachel Trewick est la troisième femme nommée évêque au sein de l'Église d'Angleterre après Libby Lane et Alison White. Donc voilà, elles sont trois. Et tandis que certains avancent, d'autres reculent. Écoutez ça, l'an dernier, l'Église luthérienne de Lettonie a interdit l'ordination des femmes, hein, alors qu'elles pouvaient être pasteurs depuis 1993. Les églises luthériennes, comme vous le savez, hein, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Norvège et en Suède, notamment, permettent l'ordination des femmes et leur nomination à des postes de responsabilité. Alors, le synode de l'Église évangélique luthérienne de Lettonie a donc amendé sa constitution en autorisant uniquement l'ordination des hommes. Hein. On recule, hein, ici, c'est deux pas en avant, un pas en arrière. L'ordination était théoriquement ouverte aux femmes, mais l'archevêque Janice Vanag s'y oppose depuis qu'il est devenu chef de l'Église en 1993. Alors, c'est d'ailleurs à se demander ce que deviennent les femmes qui sont pasteurs, qui sont déjà pasteurs en Lettonie. Elles sont très en colère d'ailleurs. Alors, et d'ailleurs, paradoxalement, la Lettonie est le deuxième pays au monde, juste derrière la Russie, encore plus impressionnant, qui détient le nombre le plus élevé de postes de direction d'entreprise et d'administration occupés par des femmes. 41% et 43% pour la Russie, selon une étude de Grant Thornton International. Babette et Becca, votre réaction par rapport à tout ce qui vient d'être dit?
C'est intéressant.
Ouais,
c'est très intéressant. Parce que moi, je crois que l'ordination, c'est Dieu qui la donne d'abord. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui envoie. C'est vrai qu'on a des problèmes avec les lois, hein, les traditions et les dénominations, mais bon.
Oui. Ouais. Mais je crois même que l'Église catholique, hein, on va faire le tour un petit peu des religions, sachant que dans la plupart des religions, les femmes parviennent à accéder à des postes assez importants, sauf l'Église catholique. L'Église catholique, hein, on sait que le pape dernièrement avait plus ou moins, il avait créé cette commission là pour discuter de l'éventualité de pouvoir avoir des femmes diacres. Il a dit qu'il était hors de question qu'il y ait des femmes prêtres. Voilà quoi, en fait, c'est votre sentiment par rapport à ça, par rapport au fait que finalement vous avez le droit d'être critique, c'est pas interdit,
oui, bien
hein. Voilà, par rapport comment c'est perçu ça finalement, le fait que l'Église catholique soit un petit peu, on va dire, à la traîne de ce côté-là, c'est pas évident de la faire bouger, l'Église catholique. Et est-ce que justement c'est pas un petit peu, est-ce qu'ils perdent pas un peu des fidèles par rapport à ça selon vous, non?
Je suis pas sûre, parce que le catholicisme justement il est très fort, il est engrainé très profondément dans la vie des gens, donc c'est très difficile de savoir si les femmes se sentent mal de ne pas pouvoir percer, si tu veux, à d'autres niveaux à l'Église catholique et à devenir aussi des leaders dans l'Église. Ça m'étonnerait qu'ils perdent des gens pour ça.
Je crois qu'il y a des femmes qui se sont déclarées de l'Église catholique, qui se sont déclarées prêtres ou je ne sais quoi d'autres, diacres, etc. On va dire hors normes.
Voilà.
Et évidemment, elles ne sont pas reconnues par l'Église catholique, mais il y a cette sorte de résistance qui existe en fait.
Oui, mais moi je pense que si on n'est pas d'accord avec ce que l'Église catholique fait, pourquoi rester catholique?
Mais peut-être parce que pour elle, ça peut changer déjà.
Oui.
Déjà, ça pourra peut-être changer un jour. Et c'est difficile parce que c'est leur foi. C'est plus une foi que la religion à ce niveau-là, non?
Exactement. L'Église catholique, c'est une religion. C'est-à-dire que les règles qui régissent l'Église catholique...
Oui, mais les règles peuvent être réformées.
Exactement, mais ce sont des règles qui sont de cette Église-là. Donc, si tu veux, c'est comme
adhérer... Si le pape décide quelque chose...
ben ça change.
Ça va changer.
Voilà, voilà. Donc c'est régi par des gens qui décident les lois de cette religion-là. Donc si tu veux faire partie de cette religion-là, ben tu vas avec ce qui va. Mais si ça te plaît pas, tu fais ton truc, tu sors.
Donc le truc de la résistance et rester dedans, c'est un petit peu comme rester dans un pays en faisant de la résistance, ou vous trouvez que c'est pas bien ça?
Donc, moi je pense que quand il y a le choix, il vaut mieux aller son propre chemin qu'obliger tout le monde à changer pour nous suivre. Je pense que c'est pas, même bibliquement parlant, hein, il y a les gens, si Dieu les a appelés à faire quelque chose, même s'ils sont seuls à le faire, ils vont le faire parce qu'ils savent que c'est Dieu qui leur a demandé de le faire.
Alors, autre religion, le mouvement orthodoxe rejette l'ordination des femmes rabbins. Certaines ont toutefois reçu la sémicha, mais les institutions rejettent ces actions et excluent généralement les femmes des écoles rabbiniques. Les femmes rabbins restent peu nombreuses en Europe, à l'inverse des États-Unis, où les courants libéraux sont plus importants. Elles ne sont que 3 en France.
Parole de femme.
Mettre fin au monopole des compagnies étrangères dans l'industrie d'aliments pour bébés, c'est l'objectif de Pascaline Nandé, jeune Camerounaise qui propose la première alternative commerciale à ce business. On écoute Michel Joseph.
Pascaline Nandé est une entrepreneure camerounaise avec une vision, celle de s'imposer sur le marché des céréales pour bébés. Son produit, des Olac, est fabriqué localement à base de soja, de blé, de fruits, de lait et de sucre. Des Olac se veut une alternative aux marques bien connues, mais importées. Pascaline Nandé.
À 6 mois, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas lui offrir les céréales qu'on vendait sur le marché. Je parle de céréales instantanées parce qu'à partir de 6 mois, le lait maternel devient insuffisant. Alors, lors d'un de mes voyages dans mon village, je me suis aperçue que les sœurs de mon village grillaient du blé qu'elles redistribuaient aux enfants de la communauté pour les aider à croître normalement. Et puis, quand j'ai vu, je me suis dit, tiens, à partir de ça, on peut faire quelque chose. C'est comme ça qu'après des expériences, le blézola qui est né.
Au Cameroun, environ 1,2 million d'enfants accusent un retard de croissance et 45% des décès d'enfants sont liés à la malnutrition. Et Pascaline travaille avec des cliniques pour enfants à Douala. Si les affaires marchent, elle peut réaliser environ 1 200 $ de bénéfices par mois. Mais Pascaline reconnaît qu'il y a beaucoup de difficultés à surmonter.
Les difficultés sont très énormes parce qu'il y a d'abord un problème d'équipement. Je n'ai pas assez d'équipement pour produire. J'ai commencé à vendre par le porte-à-porte, c'est-à-dire j'allais d'un domicile à un autre pour proposer, ce qui n'était pas facile. Le packaging était dans du plastique transparent. La sous-traitance en matière d'équipement était à 100%. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu amélioré, mais il reste toujours ce grand besoin en équipement pour pouvoir produire en grande quantité et répondre à la demande parce qu'il a du marché, il a du potentiel.
Pascaline Nandé n'offre pas son produit qu'aux cliniques pédiatriques. Elle contacte aussi les mères qui y trouvent aussi leur compte, comme Nadège.
Premièrement, j'aime Blézola parce que j'ai entendu parler du soja. Je me suis amenée vers là, j'ai acheté, j'ai dégusté. J'ai aimé son parfum, c'était bien. J'ai goûté, j'ai fait manger à l'enfant. Elle a aimé, elle prend sans problème.
L'aventure Blézolac a commencé il y a 5 ans. Aujourd'hui, Pascaline Nandé vend 150 kg par semaine, donc une part de marché encore très modeste. Mais elle espère agrandir son business en introduisant d'autres céréales très nutritives pour accroître la variété et l'offre.
Alors, j'ai parlé tout à l'heure des femmes rabbins. Alors, les femmes rabbins, ça existe. Les femmes oulémas, ça existe aussi. Hein. Il y en a notamment en Guinée. Je crois qu'il y en a dans plusieurs pays. Il y a notamment Adja Mariamso, qui est la présidente des femmes oulémas de Guinée. Il y en a au Maroc, il y en a en Chine. Les femmes imams Europe, Danemark. Au Danemark, il y en a 4. Bon, en Europe, en général, c'est particulièrement le courant soufiste. Il y en a en Amérique du Nord, où de plus
plus en plus de prières et de prêches sont faites par des femmes. La Chine, alors la particularité de la Chine, c'est qu'il y a le développement de mosquées féminines indépendantes avec des imams femmes, donc ce qui est très musulman en somme, hein, séparer les hommes des femmes. Babette et Becca, en matière d'œcuménisme, est-ce que vous rencontrez, est-ce que vous faites des rencontres avec des femmes leaders religieuses, enfin qui ont des postes assez importants, d'autres religions que la vôtre? Est-ce que vous avez déjà fait ce type de rencontres?
Pas avec des femmes. Dans Montgomery County, j'ai aidé un peu il y a quelques années avec le mouvement des religions, en fait, pour aider avec le problème de tolérance.
Oui.
Mais on s'était retrouvés dans des réunions avec des leaders, mais c'était plus avec des hommes. Hein. Il n'y avait pas vraiment les femmes. Les femmes qui étaient là, elles étaient aussi des églises évangéliques comme moi.
Oui.
Il n'y avait pas d'imam femme ou de
rabbin. Pas de rencontre avec... Ah ouais. Ouais.
Non,
avec des imams femmes américaines, des rabbins femmes américaines, ça serait intéressant, non?
Mais oui,
moi j'aimerais bien voir ça.
Oui, moi j'aimerais bien, parce que normalement, selon par exemple les écrits islam et les écrits par exemple de la loi juive, normalement les femmes ne devraient pas, selon ce qui est écrit. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas comment. Ça serait intéressant, ça serait vraiment intéressant de rencontrer.
Voilà. Bon, c'est intéressant, oui. C'est la même chose, mais voilà, visiblement, il y a toujours le courant vraiment très orthodoxe, on va dire. Et puis, il y a toujours un petit peu, dans chaque religion, finalement, un courant, on va dire, un petit peu plus libéral, quoi. C'est ça, voilà.
Partout, le libéralisme.
Si je ne pouvais...
Les réseaux sociaux, un excellent vecteur de communication pour faire le plaidoyer des initiatives citoyennes et dénoncer les injustices. Notre correspondant Guinée Zakaria Camara nous emmène à la rencontre d'un jeune homme déplorant à juste titre la situation des enfants de la rue à Conakry.
Mohamed sillonne les quartiers de la banlieue de Conakry à la recherche d'enfants abandonnés.
C'est pour montrer à l'opinion internationale que vraiment les enfants souffrent ici en Guinée.
Des enfants à la rue, enfants exposés à tout risque, des situations décrites par Mohamed sur des photos prises avec son téléphone.
Les enfants ne sont pas dans les bonnes conditions ici. Comme vous le voyez avec tous ces ordures, les enfants viennent, ils mettent leurs mains ici. Il y a certains quand ils quittent à l'école, ils viennent mettre leurs mains ici pour ramasser les choses. Alors les choses qu'ils ramassent ici, c'est les choses qui ne foutent rien.
Mohamed anime une page Facebook. Alerte Enfance est le nom de la plateforme sur laquelle il publie des photos, mais aussi des vidéos qui décrivent la dégradation de la situation des enfants dans la capitale. Sur sa page, la photo d'un enfant brûlé a été vue par plus de 300 000 visiteurs. L'enfant malade a été soigné grâce aux soins apportés par une pharmacie de la capitale. La tante du petit Ousmane nous explique comment il s'est fait brûler. Il jouait avec ses amis quelques temps après. Il est tombé dans la marmite à soupe. Il a été brûlé aux pieds, au dos et aux fesses. Un jour, ce monsieur est venu prendre sa photo. Ensuite, il est revenu avec des médicaments. Un enfant sauvé grâce à une publication. L'activiste est tout heureux d'avoir pu apporter des soins à un malade. Comme la plupart des jeunes animateurs des réseaux sociaux, Mohamed se prépare à lancer une ONG pour enfants démunis.
Que la jeunesse pouvait.
Babette Ebeka, je rappelle que vous êtes pasteur aux États-Unis. J'aimerais bien avoir votre réaction par rapport à ce reportage. Vous-même, d'ailleurs, vous soutenez les sans-abri, notamment aux États-Unis, les enfants de la rue, en Guinée et dans d'autres capitales africaines.
Oui, effectivement, ici, on a essayé d'être en contact avec des homeless shelters où ils gardent aussi des enfants. On essaie de trouver des solutions. On travaille avec le Montgomery County, and the District of Columbia pour essayer de voir comment est-ce que l'Église peut aider. Parce que nous croyons que l'Église a la solution et que quand le cœur de quelqu'un change, ça ouvre d'autres portes dans leur vie. Mm-hmm. Donc nous essayons de travailler avec eux. Bien sûr, on aide physiquement avec la nourriture, avec des mm-hmm. tutoring là où il y en a besoin. Mm-hmm. Mais on pense que si l'homme rencontre Dieu, parce que Dieu est venu vers l'homme, alors sa vie aussi change mm-hmm. radicalement.
Il y a beaucoup de femmes sans abri aux États-Unis aussi.
Énormément.
Ouais.
Énormément, trop même.
Des femmes de quelle tranche d'âge?
Bon, aux États-Unis, il y a beaucoup de femmes qui sont femmes seules avec des enfants. Mm-hmm. Et la plupart d'entre elles, elles sont jeunes. Hein, la plupart sont ouais. des jeunes, donc tu parles de 17 à 40, peut-être 30, 38, 40. Et on rencontre des femmes comme ça, qui sont soit des femmes battues, qui ont dû fuir leur foyer, qui sont protégées, ou des femmes dont les maris sont arrêtés en prison, ou des femmes juste qui n'avaient pas de relation, mais qui se sont retrouvées avec des enfants en main et qui ont besoin de l'aide de l'État. Donc il y en a vraiment, vraiment. Enfin, c'est vraiment une épidémie aux États-Unis.
Ah oui.
Oui.
Dans la région, beaucoup aussi, dans la région de Washington.
Oui, beaucoup, ouais. beaucoup. Il y a plusieurs centres dans notre région ici, ouais. avec lesquels nous sommes en contact aussi pour voir comment on peut les soutenir, où ils recueillent justement ces femmes-là et puis on essaie de les aider parce que, bien sûr, avec la souffrance, beaucoup tombent dans la drogue et dans les alcoolismes et mmh. tout ça. Donc, ça crée d'autres problèmes, exactement.
Bien
exactement.
Sûr, oui. Et les enfants.
Les enfants, voilà. Ouais. Les enfants sont là, ils se retrouvent mmh. seuls parce que maman, elle est en pleine drogue et elle ne peut pas s'occuper d'eux.
Mmh. Oui, la drogue, c'est un sacré fléau aux États-Unis.
Oui, vraiment, c'est trop triste ce problème-là. Mmh. Oui.
Combien, savez-vous, combien il y a approximativement de femmes pasteurs aux États-Unis?
Non. Je sais qu'il y avait une étude au début des années 90 qui avait compté à peu près 16 000 femmes ordonnées aux États-Unis ouais. dans ce temps-là. Il n'y a pas eu une étude aussi à ce niveau-là, aussi clair depuis lors. Mais les dernières études qui se sont faites par Barna Group, qui fait les research, ils ont dit qu'à peu près 10% des églises évangéliques sont... dans les églises évangéliques, il y a beaucoup de femmes dans le clergé, mais ouais. seulement à peu près 10% d'elles ont une femme au niveau senior pastor, donc qui dirige l'église, ou qui est la seule qui dirige l'église.
Ok. Mm-hmm. Une urgentiste de Détroit dans le Michigan a été arrêtée, inculpée le 13 avril dernier pour avoir excisé plusieurs fillettes. Ce serait le premier médecin inculpé aux États-Unis pour ce crime. Jumana Nargawala aurait pratiqué ses mutilations génitales sur plusieurs fillettes de 6 à 8 ans, selon le bureau du procureur fédéral pour l'Est du Michigan. Le ministère de la Justice est déterminé à mettre fin aux mutilations génitales, a souligné le procureur. Selon l'accusation, deux fillettes ont été amenées par leur mère depuis le Minnesota pour subir ces mutilations et ont été priées de ne pas en parler. Le procureur évoque d'autres cas entre 2005 et 2007 et la doctoresse interrogée par le FBI a nié les faits. Selon Shelby Cast, directrice d'Equality Now au USA, d'autres enquêtes sont en cours et selon les autorités américaines, plus de 500 000 femmes et filles vivant aux États-Unis ont été victimes de telles mutilations, risquent de l'être. La plupart d'entre elles sont nées aux États-Unis et il faut savoir qu'une loi fédérale contre les MGF sur mineurs a été adoptée en 1996 aux États-Unis. Le mot de la fin en 20 secondes, les femmes ordonnées, etc. Est-ce qu'il en faut plus selon vous? Est-ce que ça progresse?
C'est en train de progresser selon les recherches et ce que les recherches trouvent, qu'il y en a de plus en plus des femmes qui se font ordonner, donc plus en plus de religions et de dénominations. Est-ce que c'est nécessaire? ça, c'est, je ne connais pas la réponse à cette question-là. C'est Dieu qui choisit.
C'est bien
ça.
Quand même. Merci
moi,
beaucoup.
Mais nous, on s'occupe des enfants, donc on change le monde de toute manière.
Merci beaucoup, Babette Edeka. À très bientôt. Au revoir.
Arrête.